Ingrid.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et ce qui retient l'attention, c'est bien la sacoche de Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, lors de l'étude de crédit en commission parlementaire, était questionnée par Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois. Et pendant sa réponse, elle fouillait dans son sac. Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle cherchait là-dedans. Là. Elle parlait. C'était bien cohérent ce qu'elle disait, là, mais elle fouillait dans son sac, comme quoi les femmes sont capables de faire deux choses en même temps, fouiller dans leur sac et donner une réponse cohérente en pleine commission parlementaire. Honnêtement, là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est la semaine du déchirage de chemise pour rien à l'Assemblée nationale. Alors, le chef du PQ, on le sait plus tôt, avait mimé s'ouvrir les veines pour expliquer, là, pour finalement illustrer le fait qu'il préférait mourir que rejoindre la CAQ. Il a fini par s'excuser. Là, aujourd'hui, c'est la sacoche à Geneviève Guilbeault. On a-tu des affaires plus importantes à fouetter, là? On a-tu des chats plus importants à fouetter, des affaires plus importantes à brasser, des questions plus importantes à répondre et à poser? On est-tu vraiment le first world problem? Ou, ah, elle a fouillé dans son sac. Ah, elle porte des loup-boutins. Ah, il a fait semblant de s'ouvrir les veines. C'est tellement digne d'une récréation, d'une école primaire, notre Assemblée nationale, là. Puis là, ça se pointe du doigt, puis celui qui le dit, c'est celui qui l'est, puis ça se lance de la boîte, mais entre-temps, là, il n'y a personne qui répond à aucune question, il n'y a pas grand monde qui pose des questions, qui finalement ont des réponses. Le gouvernement, lui, il se défend, les oppositions, à chaque fois, tombent dans des pièges ou sont soupaulées. C'est un petit peu décourageant de voir que ce qu'on a retenu de l'étude de crédit de Geneviève Guilbeault, c'est qu'elle fouille dans sa sacoche. C'est tellement triste. Et si ça n'alimente pas le cynisme, qu'est-ce qui le fait? Bienvenue à Cube. Bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel.
Luc, les campus universitaires américains sont sous tension. Il y a plusieurs campements organisés par des étudiants pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et demander à leur université d'agir. La police est mobilisée. Tout le monde est à cran.
Oui, vraiment, c'est en train de prendre des allures très inquiétantes. Ça nous rappelle le Vietnam, 1967, 68, 69. Les campus universitaires étaient déchirés par des manifestations contre la guerre au Vietnam. Il y a eu des morts, la police a tiré dans le tas à l'Université Kent en Ohio. Tout le monde qui se souvient de ça regarde ce qui est en train de se passer et qui est, à mon avis, en tout cas moi je m'y attendais pas à ça, les campus universitaires, on parle ici des grandes universités et d'autres aussi, mais les grandes universités étant Columbia à New York, Harvard. Yale, Princeton, Harvard, Berkeley, University of California, Berkeley, ils montent des campements et ils demandent quoi effectivement? Ils demandent, tu sais, c'est moins connu ici, mais aux États-Unis, les grandes universités reposent sur un fonds de dotation énorme. Un des plus grands fonds d'investissement au monde, c'est le fonds d'investissement de Harvard University. Alors, donc, il y a des placements énormes dans les milliards de dollars et qui sont gérés par des gens qui essaient de faire des rendements pour, bon, comme c'est normal. Et là, ce que les étudiants réclament, entre autres, c'est qu'on retire tous les investissements liés à l'État d'Israël, liés à la fabrication d'armement qui est livré à Israël, et demande aussi à ce que les universités ne tolèrent pas de propagande sioniste. C'est assez incroyable. Et loin de... Tu sais, le 17 avril, là, on est le 23, là, alors il y a exactement une semaine.
Le 25.
Columbia University, la présidente a appelé la police. La police est arrivée, ouais, pour démanteler le campement. Et ça a pas bien tourné. Ça a tourné là, juste à la limite de la violence. Il y avait certainement de la violence verbale.
Ben, il y a eu l'anti-émeute, la cavalerie.
Ils ont déployé tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi à les arracher de là. Ils sont encore là. Et ce que ça a fait, cette intervention policière à New York, c'est que ça a déclenché les autres dans le reste des États-Unis. Et là, on se retrouve avec une question qu'on entend depuis que je suis au monde. Est-ce que s'opposer à certains ou à certaines façons de faire d'Israël constitue de l'antisémitisme? Est-ce que, parce que c'est ça que les étudiants universitaires d'origine juive font valoir, nous sommes victimes d'antisémitisme systémique.
Ils craignent pour leur sécurité.
Non, ils craignent pour leur sécurité, et à juste titre. Oui. Je les blâme pas du tout. Mais je constate que cet argument revient toujours sur la table. L'argument étant, ben, si t'es pas d'accord avec Israël qui fait ceci ou cela en territoires occupés à Gaza ou ailleurs, t'es un antisémite. Et évidemment, s'il y a une chose dont on veut pas être accusé, c'est d'être un antisémite après ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non. On s'est tous dit, nous tous, moi le premier, j'ai été profondément troublé par cette histoire de l'Holocauste. J'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai vu tous les documentaires, tous les films. Évidemment, tu te retrouves devant ça, tu dis, bon, je ne suis pas d'accord pour qu'on tue des milliers d'enfants dans Gaza. Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Je vois pas à quelle place qu'il y a l'antisémitisme.
Mais ça dilue l'importance de l'antisémitisme lorsqu'on utilise des arguments comme cela, parce que l'antisémitisme existe réellement.
Oui.
Il est réellement à combattre.
Oui.
Et c'est un fléau qu'il faut combattre de tous les instants.
Oui, qui existe depuis des milliers d'années et qui demeure un mystère
anonymable
pour bien des gens. C'est épouvantable, parce que de l'autre côté, t'as un peuple qui nous a donné quelques-uns des plus grands scientifiques, des plus grands musiciens, des plus grands poètes, des plus grands écrivains. Et en même temps, t'as le reste. C'est essentiellement un phénomène européen, d'ailleurs, là, mais il y a de l'antisémitisme qui a traversé l'océan, parce que nous aussi, on est liés avec l'Europe. Ça fait partie de l'Occident.
La haine est mondialisée également.
Voilà. Alors, nous sommes confrontés à ça constamment. Moi, par exemple, tu connais mon opinion sur ce qui se passe à Gaza. Je trouve que c'est une boucherie. Je trouve que
c'est un carnage,
c'est une catastrophe, c'est un bain de sang. Combien de milliers de litres de sang de bébé auraient été versés? Quand tu y penses, ça donne les larmes. Mais quand tu es en train d'avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est pas du même avis que toi, qui dit c'est à cause du 7 octobre, puis le 7 octobre, c'est de leur faute, non, mais le 7 octobre, il y a eu 1200 morts, là, on est rendu à 34 000.
Puis le 7 octobre, c'était pas mieux, là. C'est un carnage.
Ah, c'était un carnage. C'était
une boucherie,
c'était inacceptable.
C'est dégueulasse.
Tout ça. Oui, mais la revanche
est pas proportionnelle.
Mais est 33 fois plus grande, c'est pas très, très compliqué. Alors, à chaque fois que tu te retrouves dans une conversation avec quelqu'un qui n'est pas du même avis, tu sais, on tourne autour, là, mais tu dois être antisémite, hein? C'est ça, s'il y a quelque chose que je ne suis pas, c'est antisémite. Je suis même un admirateur de la civilisation juive qui me fascine autant dans les arts que dans la science, que dans la connaissance sous toutes ses formes.
Mais les doléances puis les demandes de ces manifestants sur les campus américains là, qui veulent s'impliquer dans où est-ce que l'argent dans les portefeuilles de ce fonds de dotation va, ça va aussi trop, tu sais.
Ben, c'est complètement ridicule, mais j'imagine qu'il faut qu'ils s'attachent à quelque chose.
Ben, faire un sit-in contre la guerre, c'est déjà pas mal pour des universités, je trouve.
Ouais.
Message est plus clair.
Oui, tout à fait. Maintenant, ils lâcheront pas le morceau, là. C'est déclenché, cette affaire-là. C'est pas nous, avec Cube Radio ou avec TVA, qui allons changer la réalité. C'est une réalité internationale. Les campus... Je regarde la liste. Au Caire, il y a la même chose se passe. À Paris, à Sydney, en Australie, on ne peut pas être plus loin de nous que ça sur le plan géographique. C'est partout.
Mais tu sais, qu'est-ce qui me gosse?
Alors, c'est ce qui me fait dire, excuse-moi de t'interrompre, c'est ce qui me fait dire que ce qu'ils sont en train de faire, Israël, va leur coûter un prix historique et réel qu'on n'est pas encore capable de mesurer. Mais qui m'apparaît, c'est comme la renaissance de l'antisémitisme à cause, c'est un problème. J'en vois pas de solution. Là. Je dirais, bon, la solution à deux États, c'est tout un paquet de blablabla. Il faut que les gens arrêtent de s'entretuer. Il faut qu'ils arrêtent de s'entretuer. Il faut que le Hamas et ses semblables arrêtent de faire des conneries. Puis il faut que l'armée israélienne arrête de faire des conneries. Puis il faut que les territoires occupés soient gérés en fonction des lois internationales et des traités. C'est illégal, la présence d'Israël qui est là. Il y a des meurtres tous les jours par des soldats israéliens.
Tous les jours
contre des Palestiniens.
Où il n'y a pas d'Hamas.
Hein?
Où il n'y a pas de Hamas. Là.
Il n'y a pas de Hamas, mais pas du tout. Ce sont des gens qui... En fait, ce sont des gens assez modestes. Je suis allé en Cisjordanie. Ce sont des paysans qui ont des troupeaux de moutons, qui font un peu d'élevage. Après tout, on est dans une contrée désertique. Et puis, c'est chez eux depuis, ma foi, 500 ans, 1000 ans. Ils ont toujours été là. Et puis, soudainement...
Mais Luc, moi, ce qui vient me chercher à chaque fois, là, c'est même... d'un point de vue médiatique, lorsqu'on parle de manifestations pro-Hamas.
Mmh. Ben, eux autres, justement, les opposants à ce qui se passe aux États-Unis font valoir que parmi les slogans qu'on crie quand on est réunis, c'est du pro-Hamas. Et tu sais quoi? Je pense que c'est vrai.
Non, mais je suis
On m'a dit, une des manifs qui a eu lieu à Montréal, j'y étais pas moi-même, là, parce qu'il y avait pas mal trop de monde à mon goût, il y avait du pro-Hamas.
Ah, mais je doute pas, mais la manifestation n'est pas des manifestations pro-Hamas, qu'il y ait des personnes qui aient des slogans pro-Hamas, mais on dirait qu'on fait des amalgames entre t'es pour la fin de la guerre, c'est que t'es pro-Hamas.
Oui, voilà. Tu veux un cessez-le-feu, donc t'es pro-Hamas. Mais c'est complètement dingue.
Ben non.
Je veux un cessez-le-feu parce que je veux qu'on cesse de s'entretuer. Je veux qu'on cesse de tirer sur des gens incapables de se défendre, de se nourrir, d'avoir de l'eau.
Avec aucune sympathie pour le Hamas whatsoever.
Mais 0-0-0, ils n'ont rien à voir dans ça. Des femmes qui viennent d'accoucher puis qui ont dit leur enfant était déjà souffrait de malnutrition. Le fœtus n'était pas assez nourri parce que la mère ne l'était pas. Il y a de quoi... ça va secouer le monde entier encore longtemps. On est mieux d'en prendre acte.
Luc Lavoie, j'espère que ça va se régler bientôt.
Merci.
Bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Savez-vous c'est quoi le ghosting? Le ghosting, là, c'est comme un nouveau concept où des personnes qui apprennent à se connaître, là, notamment à travers des applications, où ils ont des premières dates, ben, il y en a un qui disparaît. Il répond plus. Donne plus de nouvelles du jour au lendemain, sans crier gare. Il y a Mélanie Trudel, créatrice de connexion pour couples ou célibataires et fondatrice des applications de rencontres Go See You. Qui est avec nous et qui va nous parler de ce phénomène. Bonjour, Mélanie Trudel.
Bonjour.
Le ghosting, c'est quelque chose qui devient courant avec les applications de rencontres?
Ah, c'est un véritable fléau, en fait. Au point où j'ai dû mettre en place une touche anti-ghosting, justement, pour tenter de limiter ce fléau qui est de littéralement faire le mort, de disparaître, de faire le fantôme. On dirait que les gens prennent cette voie-là facile pour mettre un terme à une relation ou à une conversation, que de ne plus donner aucune nouvelle. Mais ça peut être désastreux, les effets que ça peut faire chez la personne qui se fait ghoster. Déjà, dans la vie d'un humain, une première rencontre, c'est l'une des situations les plus anxiogènes. Mais si, en plus, la personne reçoit plus de nouvelles du jour au lendemain, sans raison, pense qu'elle a peut-être fait quelque chose de mal, est-ce qu'il y a un bug avec l'application? Pourquoi est-ce que la personne ne donne plus de nouvelles? La personne peut en venir qu'à se remettre en question alors que le problème est littéralement de l'autre côté.
Mais c'est quoi les raisons principales pour justifier le ghosting? C'est de la paresse, du manque de courage, oui. Du manque de respect?
Exactement. Absolument. Donc, on voit deux choses, en fait, la lâcheté, littéralement, et peut-être aussi le fait de ne pas avoir envie de justifier. Parce qu'évidemment, si on annonce à quelqu'un qu'on ne veut pas que ça aille plus loin, et qu'on décide de mettre un terme à la conversation ou la situation, ben ça se pourrait que personne demande pourquoi et on n'a pas nécessairement peut-être envie de le dire ou de commencer à entrer dans les détails. Donc, les gens, on dirait qu'ils préfèrent juste plus s'en mêler, laisser aller exactement disparaître. Il y a aussi des collectionneurs de matchs qu'on peut voir, notamment sur des applications gratuites où les gens peuvent former des matchs autant qu'ils le veulent. Ça, il y a des gens qui nourrissent littéralement leur ego de cette façon-là. Et ils vont juste pas donner aucune nouvelle virtuellement. Donc, ils vont juste créer des matchs, avoir leur petite dose de sérotonine. Là, hein. C'est un peu comme un jeu, finalement. Ouais. Moi, je dis souvent que les gens jouent à Tinder, chose qui est pas courante dans mon application puisque c'est seulement 8,99, mais c'est quand même 8,99 qu'on prend la peine d'investir dans un profil de rencontre. Donc, les gens sont déjà un peu plus sincères dans leur démarche. Je pense que c'est pourquoi j'ai une clientèle beaucoup plus, ben, un peu plus vieille. En fait, c'est 35-65 ans versus toutes les autres apps gratuites, là, gérées par les géants. Il y a plus de gens, mais il y a plus de gens aussi qui vont juste, comme, s'amuser et jouer avec ça. Donc, je pense que le ghosting...
C'est ça, vous, dans votre application Go See You, est-ce que ça permet de débusquer les ghosteurs en chef, là, ceux qui ont cette habitude-là? Puis qu'est-ce que vous faites avec? Comment on le sait?
Oui. Deux choses. En fait, j'ai pris deux actions. On a la touche dénoncer au bas de l'écran qui va permettre aux gens de littéralement dénoncer les profils qui émettent le ghosting, finalement, qui pratiquent le ghosting. Après deux dénonciations de deux personnes différentes, la personne reçoit un avertissement comme quoi la troisième fois, elle sera bannie de l'application. Et on a la touche également anti-ghosting en haut à droite qui permet de tout simplement mettre un terme à la discussion et d'envoyer un message automatisé, donc qui dit « Je te remercie pour le temps accordé, mais ça n'ira pas plus loin. » Donc ainsi, ça permet à la personne d'envoyer un message qui est déjà prédéfini, sans avoir à expliquer pourquoi, mais au moins, ça ne laisse pas l'autre personne dans le néant.
C'est comme du courage artificiel, là.
Ben oui, en quelque sorte, c'est pour la personne qui... pour éviter que la personne se fasse dénoncer pour ghosting, mais ça permet aussi à la personne de pas laisser l'autre dans le néant. Tu sais, au moins d'aviser qu'il y a pas d'intérêt à aller plus loin. Mais la personne, en fait, qui reçoit ce message-là, ben elle peut pas réécrire. Donc, il y aura pas de suite et tout ça. Mais au moins, ça évite des situations où il y a des gens, moi, qui nous contactaient. Moi, le service à la clientèle en personne, c'est vraiment important. Donc, les gens nous contactaient et moi ou un membre de notre équipe, on rappelait l'autre personne pour voir est-ce que vous avez un bug avec l'application ou c'est tout simplement vous avez cessé d'écrire parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. Parce que là, la personne qui se fait ghoster pense qu'il y a un bug dans l'application puisqu'ils étaient en discussion et la personne disparaît du jour au lendemain sans raison. Ça peut vraiment créer un problème chez la personne qui se fait ghoster à plus d'une reprise là, consécutive. Ça peut vraiment faire en sorte que la personne se remet en question puis s'inquiète alors qu'elle n'aurait pas, elle n'a pas eu de comportement
Mais incorrect, là, on en parle aujourd'hui avec évidemment l'arrivée massive de ces applications-là de rencontres qui font en sorte que les personnes enchaînent là, les rencontres une après l'autre, donc augmentent le nombre de probabilités de ghosting ou finalement de lâcheté, disons-le comme c'est. Mais disons dans la préhistoire, là, tu sais, dans l'âge de pierre, là, avant l'arrivée de ces applications-là, le ghosting, je pratiquais pareil, là, tu sais, rencontre, va souper, puis le lendemain, t'entends plus parler, là.
Ah, exact, absolument. Puis vous avez raison, je pense que c'est la multiplication de la création de connexions qui fait qu'on a l'impression que c'est pire qu'avant. Mais autrefois, c'était par téléphone. On appelait les gens par téléphone et du jour au lendemain, on n'avait plus d'appel, on n'avait plus de nouvelles de la personne. Donc, c'était en quelque sorte une forme de ghosting.
La bonne que vous désirez jouer n'est plus disponible.
Voilà, exactement. Donc, je pense qu'avec l'arrivée des applications, effectivement, ça crée le nombre de connexions possibles. Donc, ça crée aussi le nombre de connexions potentielles parce que grâce aux applications, si on en fait un outil correct, ben ça peut être utilisé de façon très positive et ainsi créer des connexions avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la réalité, finalement.
Mais je reviens au ghosting, là. Des personnes qui se font ghoster, peut-être qu'elle ghost elle aussi, là, tu sais, je pense que c'est pas des ghosteurs en chef, là,
tu sais. Je pense qu'on a tous ghosté quelqu'un.
C'est ça, tu sais.
Je pense qu'on peut tous avoir ghosté quelqu'un à un moment ou un autre dans la vie, par simple désintérêt, mais je pense que ça vaut la peine quand même de prendre son courage. Mais voyez, même au resto, les gens ghostent. C'est ce comportement qui peut être vécu. Ben, ça peut être un comportement qui est vu notamment dans les restaurateurs, dans les entrevues d'embauche également. Il y a des gens qui peuvent prévoir une entrevue, ne pas se présenter. Ce sont toutes des formes de ghosting, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler pour justement tenter de limiter ce fléau et aussi limiter les dommages parce que ça peut vraiment, psychologiquement, ça peut détruire quelqu'un littéralement. Puis comme je disais, une rencontre dans la vie d'un humain, c'est l'une des situations les plus anxiogènes, donc faites attention à vos comportements au, pendant la rencontre, mais le après aussi est très important. S'il n'y a plus d'intérêt, mais mieux vaut le dire tout simplement. Et de toute façon, le bouche à oreille, hein, ça se fait vite. Et c'est de tout aussi bien de laisser une belle impression malgré le non-intérêt, finalement.
Une personne qui se fait ghoster devrait réagir comment? Parce que là, tu sais, on a tendance à vouloir le closure, là, tu sais, avoir des justificatifs, vouloir comprendre, puis regarde, je veux juste savoir, puis on essaie de se trouver un réconfort, mais elle doit réagir comment, la personne qui se fait ghoster? Est-ce qu'elle aussi, elle devrait dire « Oh, ben, évidemment. »
Ben, moi, j'écrirais un petit mot, tout simplement. Tu sais, ça aurait été agréable de savoir pourquoi tu cesses de me donner des nouvelles. C'est par non-intérêt. Tu sais, j'aurais apprécié, tout simplement, que tu me le dises. Donc, je pense qu'un petit mot comme ça, mais rien ne sert d'insister et de tenter de savoir à tout prix et tout. Là, tu sais, faites pas ça. Passez à un autre appel. La personne vous accorde pas de temps en ce moment. C'est parfait. La vie a voulu qu'elle sorte de... Passez à un autre appel, là. Allez, perdez pas vos énergies avec ça. Ça vaut pas la peine. Vraiment pas.
C'est assez particulier. Et qui ghost le plus, les filles ou les gars?
C'est surtout les hommes, je dirais, après une première rencontre. Mais avant, mesdames étant davantage sollicitées sur les réseaux, je pense qu'après, une fois le match créé, ce sont souvent les femmes qui ne répondent pas, en fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est du ghosting que de ne pas répondre après un match? Bonne question. Mais je pense que... dès les premiers échanges, souvent c'est madame, mais après une première rencontre dans la réalité, souvent c'est monsieur. Et ça, c'est parce que souvent les gens tombent amoureux ou sont davantage attirés par le potentiel de la relation et pas ce que la relation est en particulier. Tu sais, les gens ont tendance aussi à accumuler des matchs et accumuler des conversations virtuelles et à s'éterniser virtuellement, chose qui est à ne pas faire, puisque plus que vous vous éternisez virtuellement, plus que vous risquez d'être déçu lors de la rencontre, parce que virtuellement, on peut imaginer un tas de choses.
Ben oui.
On peut même s'imaginer le son de la voix de la personne. Donc, c'est pour ça, moi, dès sens d'échange, il y a une suggestion de premier rendez-vous qui est envoyée, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer par vidéo à même l'application ou le téléphone sans donner vos coordonnées. Donc, ça permet quand même une certaine forme de confidentialité, mais de connaître davantage la personne dans la réalité, un premier contact dans la réalité, ou de vous rencontrer dans la vraie vie. Parce qu'après sans échange, c'est l'équivalent à peu près d'un jour et demi de conversation. Moi, je constate qu'il est temps de se rencontrer dans la réalité. Et les statistiques disent qu'une conversation qui perdure au-delà de 3 semaines, presque assurément vouée à l'échec.
Mélanie Trudel, créatrice de connexions pour couples ou célibataires et fondatrice de l'application de rencontre Go See You. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans mon émission La Sexploratrice sur les ondes de choix Radio X. Donc, n'hésitez pas à écouter là, tous les jours, en fait, en formule quotidienne.
Merci beaucoup.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Si vous avez des enfants, là, je vous ramène au tout premier que vous avez eu. Ah, vous deviez avoir un petit stress, tu sais. Pourquoi mon enfant pleure? Tu sais, au début, on sait pas trop. On est des nouveaux parents. On apprend comment tout ça fonctionne. On apprend à connaître aussi notre enfant. Ça peut être un petit peu déstabilisant. Ben, à Montréal, il y a une entreprise qui vient de lancer une application basée sur l'intelligence artificielle qui capte les pleurs de votre bébé. Donc, on vous dit pourquoi il pleure. Est-ce qu'il pleure parce qu'il a faim? Est-ce qu'il a mal à quelque part? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'émotion? L'inconfort? Puis selon la raison des pleurs, bien là, on va vous faire des recommandations. On va vous faire des suggestions sur quoi faire à ce moment-là. Eh bien, dans l'épisode de Yasmine, un petit peu plus tard, on va en savoir plus avec le chef de l'exploitation de Ubenois Health, qui a créé l'application Florent Voumard. Donc, ça s'en vient. Puis moi, je suis quand même assez curieuse de savoir comment ils ont réussi à créer cette application-là. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans les cris d'un bébé qui fait que whoop, oh, quand on est en ré mineur, c'est parce qu'il y a faim, puis whoop, quand on est en fa dièse, ben, c'est parce qu'il y a un inconfort. Non, mais je suis quand même assez curieuse parce que ça reste, oui, ça reste un outil, mais c'est quand même assez précis, on s'entend. Donc, on va avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Et on va parler aussi à notre collègue journaliste Yves Poirier. Il y a des parents qui l'ont contacté pour parler de la dégradation de leur quartier à Montréal, le quartier Saint-Henri, en raison de l'ouverture de la maison Benoît Labre, qui comporte en fait 36 logements et un centre d'inhalation. Puis là, ça fait juste 10 jours que c'est ouvert et la situation est déjà chaotique. Donc, on va en savoir un petit peu plus avec Yves dans une vingtaine de minutes. Et on vient de parler de ghosting. Je vous invite à être à l'écoute de l'épisode de Sophie Durocher parce qu'on reçoit en studio notre gourou, Louise Sigouin, qu'on a découvert avec, évidemment, les saisons de Si on s'aimait et si on s'aimait encore. D'ailleurs, à partir de lundi, c'est la nouvelle saison. Si on s'aimait encore, bien, la différence, en fait, c'est que là, on a des couples qui sont ensemble depuis longtemps ou depuis à peine quelques années. Ça va pas très bien dans le couple, donc on essaie de raviver la flamme. Donc, on va avoir tout plein de détails sur cette nouvelle saison-là avec Louise Sigouin, qui sera en entrevue. L'épisode de Sophie qui commence dès 15h. Donc, je vous invite à rester avec nous via lecube.ca ou l'application Cube.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
C'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel Fadel. Bonjour, Yasmine.
Bonjour, Marianne.
Revenons ensemble sur la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, avec cette histoire terrible, évidemment, hier, de deux jeunes filles agressées dans une famille d'accueil qui a reçu des dizaines d'enfants. Histoire qui en suit d'autres, comme évidemment, on pense à la fillette de Granby, il va s'en dire. Yasmine, le ministre a dit que les choses s'étaient améliorées, mais est-ce que c'est vraiment le cas?
Ben, Marianne, je fais juste réfléchir aux derniers mois. Là. Dans les derniers mois, lorsqu'on parlait de la DPJ, on a évidemment le cas le plus récent, celui de ces deux jeunes filles qui se sont fait agresser dans la même maison de ce foyer, finalement, maison d'accueil de la DPJ, alors qu'il y a eu dénonciation. Personne n'a levé le petit doigt pour la première fille qui a dénoncé. Il y a quelques semaines encore, on parlait de ces cellules, finalement, qu'il y avait dans un centre de jeunesse pour les enfants tannants, là, où on les rentrait dans une cellule, comme en prison. C'est à DPJ, ça, c'était à Laval. On parlait encore il y a quelques mois, ici à Cube, de tout le volet aliénation parentale. Des parents sont retirés à des mères alors qu'elles se sont séparées d'un père violent qui fait face à des accusations criminelles en matière de violence conjugale. Ben, on retire les enfants à la mère, la victime, pour les laisser au père en disant, ben non, la mère est aliénante. Et là, je me demande, et où la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Mme Catherine Lemay, là, on la voit pas, pas de son, pas d'image, on sait pas si elle trouve ça normal ou pas. Lionel Carmant dit qu'il est scandalisé, je veux bien scandaliser, mais c'est parce que ça fait plusieurs mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la DPJ ou est-ce qu'on devrait plus avoir confiance en la DPJ? Là, la DPJ, là, la confiance qui nous lie à elle comme famille, comme contribuable, comme citoyen, est érodée. On sait pas si quand la DPJ débarque dans nos vies, c'est pour le bien ou pour le pire.
On en vient à se poser la question, est-ce qu'on surveille ce qui se passe à la DPJ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ce qui se fait?
On n'a pas l'impression. On a l'impression qu'on se cache derrière la confidentialité des dossiers pour ne pas aller regarder les pratiques. Là. La question de l'aliénation parentale, Marianne, le nombre d'heures de formation données aux intervenantes, là, c'est absolument minime. Et encore là, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, c'est celle qui est supposée être au front, c'est celle qui est supposée être au courant de ce qui se passe, c'est celle qui est capable de finalement lever le drapeau pour dire on a un problème là-dedans, on a un problème dans ce foyer-là, on a un problème de pratique ici, un manque de formation là. Mais on la voit pas, même quand il y a une crise, on ne la voit pas. Lionel Carmant, évidemment, plutôt que d'être scandalisé, il devrait plutôt dire, ben là, il y a un gros ménage à faire à DPJ, puis il y a plusieurs personnes qui se demandent si Catherine Lemay, c'est encore la bonne personne pour être dans ce poste aussi sensible.
Parlons d'un sujet quand même plus léger, il faut le dire. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui s'est défendue d'avoir manqué de respect en fouillant dans sa sacoche. On va voir d'ailleurs des images de ça. Elle fouillait donc dans son sac pendant qu'elle répondait au péquiste Joël Arsenault. C'était en commission parlementaire. Donc, hier, elle dit qu'elle cherchait un document. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là, Yasmine?
Hey, je trouve qu'on a vraiment une cour de récréation d'école à l'Assemblée nationale cette semaine. C'est le mime de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il mimait de se suicider. Là, aujourd'hui, c'est la sacoche de Geneviève Guilbeault. Honnêtement, on se concentre beaucoup trop sur ces anecdotes qui ne veulent rien dire, des tempêtes dans un verre d'eau, plutôt que d'avoir de se concentrer sur les réponses. Là, tout le monde parle des crédits, puis Geneviève Guilbeault qui fouille dans son sac, mais je me demande combien de personnes regardent réellement les crédits et combien de personnes portent attention à la réponse qu'elle donne. Et moi, ce qui m'intéresse, puis je l'ai vu plusieurs fois, ce segment-là, la réponse que Geneviève Guilbeault donnait à Monsieur Joël Arsenault, elle était cohérente, elle était dans le sens juste, là, elle était pas en train de l'ignorer en fouillant dans sa sacoche. Bon, c'est peut-être pas élégant, mais au-delà de l'élégance, là, c'est pas insultant non plus, là, puis il va falloir un petit peu se calmer, parce que j'ai l'impression qu'on est rendu ben trop sensible à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de travers à l'Assemblée nationale, alors que, mon Dieu, il y en a des affaires de travers. On fait un scandale avec ça. Geneviève Guilbeault, c'était pas chic, mais c'était pas la fin du monde non plus. Tout comme Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était pas chic, mais c'était pas la fin du monde.
Yasmine Abdel-Fadel, merci à toi. Au revoir.
Au revoir.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel.
N'importe quel parent, c'est le désespoir qui nous habite là, lorsqu'on a notre enfant qui ne parle pas, pleure. On sait pas pourquoi il pleure. Est-ce que sa couche est souillée? Est-ce qu'il a faim? Il a soif? Il veut dormir? Il veut pas dormir? Il a mal? Y a-tu mal? Y a-tu quelque chose qui le pique? Y a pas quelque chose qui le pique? Y a-tu trop chaud? Y a-tu trop froid? On le sait pas. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Plus maintenant, parce que il y a une application maintenant qui utilise l'intelligence artificielle qui interprète, imaginez, les pleurs de bébé pour proposer aux parents les scénarios les plus probables qui causent ces pleurs. On en parle avec Florent Voumard, qui est chef de l'exploitation chez Aubenois Health, l'entreprise qui a conçu cette application-là. Mais où étiez-vous toutes ces années, Monsieur Voumard? Où étiez-vous? Je suis rendue à mon troisième enfant, la première, la deuxième, j'ai souffert. C'est déjà un miracle, j'ai encore des cheveux.
On travaillait sur nos études cliniques, Madame Abdel-Fadel, c'est ça qui se passait.
Expliquez-nous comment fonctionne cette application.
Oui, c'est très simple. C'est une application à télécharger gratuitement sur son téléphone. Donc, disponible en français ou en anglais, on va sur le magasin d'Apple ou d'Android. On tape N-A-N-N-I AI pour intelligence artificielle en anglais.
Nani AI.
Et une fois l'application téléchargée, ben, quand bébé pleure, puisque sa fonctionnalité primaire, finalement, la préférée des parents, c'est le traducteur de pleurs, comme vous l'avez décrit. Donc, une fois que bébé pleure, c'est très simple. On appuie sur le bouton central de l'application. On enregistre quelques pleurs. On suggère toujours un peu plus que 5-10 secondes de pleurs, même si ça fait mal à attendre et à écouter. Et puis, ensuite, l'application va fournir les causes probables du pleur, avec aussi des recommandations sur comment calmer le bébé.
C'est comme le Shazam des parents.
Exactement. C'est le nom qui revient. C'est le Shazam des sanglots, le Shazam des bébés, oui.
Mais expliquez-nous comment est venue cette idée, les pleurs diffèrent. Parce que, tu sais, on dit toujours que la mère a un sixième sens, là. Puis, comme, tu sais, une maman est capable de dire: ah, non, ce pleur-là, c'est parce qu'il a faim. Ah, non, ce pleur-là, c'est parce qu'il a souillé sa couche. Vous avez été capable de souffler un peu d'instinct maternel dans une application de AI?
C'est moins beau que ça. En fait, depuis les années 70 que on s'est intéressé aux pleurs des enfants, et puis on a remarqué que lorsqu'un enfant était atteint de troubles neurologiques forts, son cri était différent. Donc cette notion qu'il y a quelque chose dans le pleur qui peut être une vitrine de sa santé ou de ce qu'il veut émettre, elle date depuis il y a vraiment longtemps. Puis c'est maintenant, avec les avancées en intelligence artificielle, on a décidé de partir des études cliniques dans des hôpitaux ici au Canada, en Afrique, en Amérique du Sud, et d'enregistrer des pleurs de bébés. Et lors de ces enregistrements de pleurs de bébés, le docteur, le pédiatre ou l'infirmière ou l'infirmier, ou des fois le parent, annotait la raison du pleur. Donc je vous donne un exemple. Si il venait d'avoir une piqûre, la première prise de sang par exemple, on sait que c'est un pleur de douleur. Ouais. Si l'enfant était dû d'être nourri, on sait que c'est un pleur de faim. Donc on annote ces informations. À partir de là, on peut entraîner des algorithmes, des modèles d'intelligence artificielle pour finalement essayer de retrouver ce qui, dans les pleurs, permet d'identifier la raison du pleur.
C'est assez particulier parce que le pleur est bien la première chose qu'on sait faire. Tu sais, la première chose qu'on fait en naissance, c'est pleurer. Et le seul vraiment moment où on est heureux d'entendre un enfant pleurer, c'est quand il est né. Là, à partir de là, on n'en veut plus. Mais Comment réagissent les parents qui essaient cette application-là? Est-ce que tout d'un coup, on dirait qu'ils ont découvert le Graal?
Ça dépend, c'est d'un parent à l'autre. Certains nous disent, ben moi, je l'utilise comme appoint quand ça fait 10 minutes que ça dure, que j'ai tout essayé, je ne sais plus où j'en suis. D'autres, quand ils sont fatigués, certains ne jurent que par cela et l'utilisent en premier lieu parce que finalement, ils trouvent que c'est vu que ça fournit une liste de recommandations, c'est des fois la charge mentale, la fatigue, le manque d'heures de sommeil fait qu'on ne sait plus ce qu'on a essayé, ce qu'on n'a pas essayé. Donc, des fois, juste avoir une liste qui permet de dire, j'ai pas pensé, par exemple, à faire prendre un bain. C'est quelque chose qui aurait pu être le cas si bébé avait froid, par exemple. Donc, c'était un inconfort. Donc, les opinions varient et les façons d'utiliser varient vraiment d'un parent à l'autre. On en voit certains qui l'utilisent plusieurs fois par jour, puis certains qui viennent une fois par semaine l'utiliser, etc.
Mais là, on parle beaucoup de parents, mais il y a évidemment toutes les personnes qui viennent prendre soin de l'enfant, que ce soit par exemple une éducatrice, une gardienne, qui n'a pas nécessairement ni l'expérience, ni l'oreille maternelle pour essayer de dire « mon bébé, il a besoin de ça ». Ça doit être révolutionnaire pour ces personnes-là, parce qu'on le sait quand on sort puis qu'on laisse nos enfants puis qu'il y a quelqu'un qui nous appelle « écoute, ça fait 2 heures qu'il pleure, je sais pas pourquoi, j'ai tout essayé ». Je pourrais leur dire « va voir le Shazam pour bébé ».
En tant qu'oncle, je ne peux qu'approuver cela. Oui. Et puis on le voit aussi hein, que souvent les parents, après quelques mois, que ce soit l'instinct maternel ou l'instinct paternel,
ouais.
Au bout d'un moment, il arrive et puis l'application est beaucoup moins utilisée. On le voit de façon très, très claire que c'est vraiment dans ces premiers mois lorsqu'il s'agit des parents. Mais c'est certain, on a plusieurs parents qui nous ont dit, ben moi, c'est génial quand la grand-mère vient pour s'occuper des petits, ça donne c'est quelque chose de plus, c'est un outil de plus qui rassure et qui aide.
Est-ce que la fiabilité est-ce que l'algorithme et la fiabilité de l'application est aussi bon en début de vie là, lorsque le bébé est un nouveau-né versus lorsqu'il a par exemple 18 mois ou 15 mois et qu'il ne parle pas nécessairement encore, ou est-ce que la fiabilité diminue avec le temps?
En fait, sans aller dans trop de détails techniques, c'est même l'inverse. Nos modèles ont été entraînés particulièrement sur des nouveau-nés parce que c'était en milieu hospitalier qu'on a fait nos études cliniques. Donc, c'est des enfants qui avaient souvent 1 à quelques jours de vie. Donc, c'est certainement là que le modèle est le plus performant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'on a des parents qui l'utilisent depuis plus longtemps, on travaille à améliorer les algorithmes et finalement à les personnaliser à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un algorithme qui est pas personnalisé à l'enfant, mais c'est vraiment la direction sur laquelle on travaille, c'est évident, parce que plus on a de pleurs avec un retour du parent, parce qu'il y a un cercle vertueux en intelligence artificielle, c'est si le parent peut vous dire si vous aviez raison ou non, parce qu'ils ont par exemple il avait faim, ben, il a été nourri, vous aviez raison. Donc une fois qu'on a cette information et qu'il nous dit oui vous aviez raison, on peut finalement améliorer les modèles par rapport à leur enfant aussi. Donc ça, c'est vraiment l'avenir, une des directions d'avenir de l'application.
Vous avez l'application, ça fait combien de temps qu'elle a été lancée au Québec et quels sont, est-ce qu'elle est populaire, est-ce qu'elle est connue?
L'application, on l'avait lancée d'abord comme une bêta sous un autre nom en juin 2023. Puis elle a très très rapidement atteint plus de 200 pays dans le monde. Donc, on a tout de suite vu qu'il y avait un besoin. Les gens tapent dans la recherche sur Apple, cry translator, traducteur de pleurs, etc. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment un besoin. Et finalement, l'application, maintenant, on la lance officiellement ici en français et puis en Amérique du Nord de façon générale, en anglais. Donc, on l'a renommée récemment Nanny AI. Et oui, elle a beaucoup de succès. On a des milliers d'utilisateurs qui la découvrent tous les jours et qui l'utilisent. Donc, pour nous, c'est génial parce que notre but ultime, c'est aussi la recherche. On n'a pas commencé le pourquoi bébé pleure. Ce qui nous a vraiment démarré dans l'entreprise, c'est détecter des troubles neurologiques.
Ah.
Et aujourd'hui, en l'espace de 1 à 2 journées d'application, on a plus de pleurs qu'en 3 ans d'études. Donc évidemment, c'est extrêmement positif pour nous parce que ça nous permet d'avancer aussi notre recherche. Ça nous permet de mieux comprendre ce qu'il y a dans les pleurs, ce qu'est un pleur. Donc, c'est un avantage immense.
Est-ce que tous les bébés pleurent de la même manière, peu importe le pays d'où ils viennent? Je sais que ça a l'air stupide comme question, mais...
C'était une des premières questions à laquelle il fallait, une hypothèse à laquelle il fallait répondre. C'est pour ça qu'on a fait des études ici au Canada, mais qu'on les a aussi faites en Afrique, au Nigeria, en Amérique du Sud, au Brésil, pour avoir des pleurs de bébés de différentes ethnies, ouais. Et différents groupes. Et ce qu'on voit, c'est que les modèles sont tout à fait aussi performants sur un enfant qui soit entraîné d'un bout en Amérique du Nord, sur un enfant au Nigeria ou non. La réalité, puis c'est pas moi la personne le clinique et scientifique de l'équipe, mais c'est que le pleur chez un nouveau-né est contrôlé par le système nerveux central. Et donc c'est pas un choix, c'est pas le bébé ne veut pas pleurer, c'est vraiment un signal qui est émis. Et nous, notre équipe, c'est des gens qui sont des post-docs en traitement de signaux. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre ce signal et de l'analyser.
On parle maintenant des pleurs, évidemment, de bébés pour essayer de répondre le plus rapidement, le plus efficacement aux besoins d'un bébé qui n'est pas, évidemment, qui ne peut pas parler. Mais ça ouvre la porte à l'ensemble, évidemment, d'un chantier de diagnostic à très jeune âge. Quelles sont les prochaines étapes maintenant, là, Nanny, là, vous allez révolutionner le monde avec ça, je vous le promets. Mais à partir de là, sur quoi vous allez plancher?
Oui, ce qu'on veut vraiment, c'est construire un outil qui permette d'aider à la surveillance de la santé de l'enfant. La force des pleurs, c'est comme vous le savez, il y en a à profusion. Ah ouais. Mais la force des algorithmes et de notre méthodologie, finalement, c'est que tout ce qu'on a besoin, c'est d'un microphone. Après ça, l'algorithme est entraîné, fait son travail. Donc, nous, notre objectif, c'est de continuer à travailler sur notre détection en premier lieu de tout ce qui est troubles neurologiques. Et là, on a des études qui démontrent déjà avec plus de 90% de précision, on est capable de détecter un nouveau-né qui a un risque de troubles neurologiques seulement basés sur ses pleurs. Donc, c'est vraiment uniquement en utilisant les pleurs. Donc, nos prochaines étapes, nous, c'est évidemment d'aller chercher à aller obtenir l'approbation par Santé Canada, par le FDA aux États-Unis pour ces modèles de détection. Pour pouvoir les intégrer ensuite à Nanny, pour pouvoir les intégrer potentiellement dans d'autres moniteurs bébés, etc. Mais c'est vraiment pour nous l'étape logique par la suite. Ce qu'on veut finalement, ce qu'on dit tout le temps, c'est les bébés veulent nous parler, il faut les écouter. Et c'est vrai au Canada, c'est vrai au Québec, c'est vrai au Nigeria. Si on est capable de fournir un outil qui permet de détecter ces troubles-là à tous les enfants dans le monde, ben on aura gagné. Puis c'est vraiment sur quoi on travaille.
Après le nombre de cris et de pleurs de bébés que vous avez entendus, ça vous a dû vous couper toute envie d'avoir des enfants?
Ouais, c'est vraiment assez drôle d'être dans nos bureaux. On entend toujours quelqu'un qui a oublié de mettre son headset, ça fonctionne pas, puis on entend des pleurs qui partent parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Oui, non, je cacherai pas que j'en ai entendu plus un nombre assez anormal par rapport à quelqu'un qui n'en a pas.
C'est un moyen de contraception assez efficace, là, votre application.
Potentiellement, mais je dis pas ça à ma femme.
Florent Boumard, chef de l'exploitation chez Oubenois Health, qui ont développé la fameuse application Nanny AI qui va vous sauver la vie et vous garder plusieurs cheveux parce que vous allez arrêter de vous demander pourquoi votre bébé pleure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous, madame.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
10 jours seulement après l'ouverture de la maison Benoît Labre, qui comporte 36 logements ainsi qu'un centre d'inhalation supervisé, imaginez bien, dans un quartier résidentiel, la situation est déjà chaotique en matière de cohabitation dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Plusieurs parents sont inquiets et ils ont contacté TVA Nouvelles et notre collègue Yves Poirier parce qu'ils voulaient faire état de la dégradation de la sécurité dans leur quartier. Yves Poirier est sur place, il est parti voir ça. Bon, il l'est plus, mais Yves Poirier est parti parler à ses parents-là. Salut Yves!
Bonjour Yasmine, oui, j'y étais il y a quelques minutes à peine en passant. J'étais dans le quartier, mais je suis revenu à la station tout simplement pour préparer le reportage. Mais j'ai passé une bonne partie de la journée là-bas. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet, nous dit-on, novateur de la maison Benoît Labre, c'est-à-dire on intègre à même la maison des logements pour aider cette clientèle à quitter graduellement la rue, mais en même temps, vous avez un centre d'injection ou d'inhalation supervisé. Je te dirais que les gens déchantent un peu, là. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui sur le terrain, là-bas, c'est que d'une part, le centre, et ça on le savait, est situé à moins de 100 mètres d'une école primaire, l'école Victor-Rousselot, donc c'était assez particulier la scène que je voyais à l'heure du midi. Tu avais des enfants d'âge primaire et juste à côté, tu as une tante d'itinérants qui vient de pousser là, il y a quelques jours. Tu as d'autres itinérants qui déambulent dans ce secteur avec leurs effets personnels, du moins ceux qui ont très peu d'effets. Il y en a même un qui a élu domicile dans les escaliers d'un immeuble à logement. Bref, je te dirais, ça ressemble carrément, Yasmine, un petit refuge à ciel ouvert, et ça déplaît grandement aux parents là-bas qui sont inquiets. Il y a même un père de famille qui me racontait que récemment, il y a un itinérant qui a baissé ses pantalons, qui a uriné, donc, et les enfants, malheureusement, ont été témoins de la scène dégradante. Parce que je te dis, la cour, elle est vraiment à proximité de la maison Benoît Labre, et donc cette clientèle-là s'est amenée au cours des 10 derniers jours, et j'ai pu en compter plusieurs dizaines aujourd'hui, de ces gens qui vivent dans des situations très vulnérables, qui dépendent évidemment de ces services, de ces intervenants. Mais la question qui se pose depuis le début, Yasmine, comment se fait-il qu'on inaugure un établissement de la sorte à quelques écoles primaires dans un quartier résidentiel?
Mais quelle image on veut donner aux enfants, un centre d'inhalation qui va, on sait, attirer des sans-abri, des personnes prises avec des problèmes de toxicomanie, aux abords d'une école primaire? Comment les parents réagissent à ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent retirer leurs enfants, notamment de cette école-là?
Certains m'ont confié effectivement tantôt qu'ils souhaitaient retirer leurs enfants de cette école, qui est l'une des écoles les plus défavorisées au Québec, Yasmine, en raison justement de clientèle dans le quartier Saint-Henri. C'est à deux pas du quartier du marché à Trois-Teux, qui est un très beau secteur, si tu veux, de la ville de Montréal. Cependant, effectivement, c'est assez défavorisé, si tu veux, à proximité. Cela dit, il y a des parents, oui, qui voudraient éventuellement retirer leurs enfants pour qu'ils n'aient pas, ne soient pas en contact, si tu veux, indirect avec cette clientèle. Je te disais qu'il y a un centre d'inhalation supervisé à l'intérieur, mais ce que les citoyens me disent, c'est qu'ils ont constaté au cours des derniers jours qu'il y avait des consommateurs qui fumaient du crack, par exemple, à proximité de leur résidence ou de leurs appartements ou de leur condominium. Alors, c'est pas le genre de situation qu'on apprécie dans le quartier. Et pour cause, je voyais tantôt Yasmine sur l'un des balcons juste à côté de la maison Benoît Labre, un citoyen qui avait affiché une grande banderole sur laquelle on pouvait dire « Pas de centre d'inhalation dans ma cour, s'il vous plaît, surtout pas à proximité d'une école. » Alors, ça, c'est l'état de la situation. La maison est cependant là pour rester, Yasmine. Ça a été approuvé par le ministère de la Santé, M. Carman, le ministre délégué à la Santé, a dit oui au projet. On est en plein processus pour roder, si tu veux, la maison d'hébergement. Le problème, je vais te l'expliquer notamment, c'est que l'entrée principale, Yasmine, de la maison Benoît Labre donne sur l'avenue Atwater. Toutefois, les travaux ne sont pas complétés. Donc, l'entrée principale n'est pas accessible en ce moment. Alors, toute la clientèle converge vers l'arrière de l'immeuble et l'arrière de l'immeuble est situé à quelques pas de la cour de l'école primaire Victor Rousselot. Et là, les enfants, effectivement, tout comme les citoyens du quartier, sont témoins de scènes dégradantes, ils ne veulent pas voir de consommateurs dans leur cour, des gens dormir au pied de leurs escaliers. Pourtant, c'est ce qui arrive depuis quelques jours seulement. Donc, le portrait de ce quartier a radicalement changé en quelques jours aux grandes dames des citoyens là-bas.
Mais quand le gouvernement décide d'avoir un centre d'inhalation, un centre d'injection supervisé aux abords d'une école, il s'attend à ce qu'il y ait une faune, disons, un peu particulière qui va être attirée. Quels sont les justificatifs qu'ils peuvent donner de cette cohabitation forcée qui démontre qu'il ne va pas réussir, qui s'est écrit dans le ciel que cette cohabitation-là ne pourra pas être assurée dans la sécurité et la quiétude pour ces enfants-là?
Bien, les drapeaux rouges ont été levés par les citoyens, Yasmine, il y a plusieurs mois de cela. Ça a largement fait la manchette dans à peu près tous les médias du Grand Montréal. La cohabitation, déjà au départ, les parents disaient que ce n'était pas possible. Ils réitéraient le fait que l'école est déjà dans un quartier défavorisé. Alors pourquoi, si tu veux, amener une clientèle déjà un peu poquée, l'expression là, un peu québécoise, dans un quartier comme ça, le gouvernement a quand même donné le feu vert à ce projet. Et je ne remets pas tout en doute, Yasmine, la qualité des intervenants.
Ben oui, qui sont, évidemment.
Au contraire, ce sont des gens qui travaillent souvent à effectifs réduits. Et je pense que c'est présentement le cas en ce moment à la maison Benoît Labre. On me disait que le centre d'inhalation supervisé devait ouvrir 24 heures sur 24. Je n'ai pas eu la confirmation, mais des parents me disent que ce n'est pas le cas en ce moment parce qu'on manque de personnel. Il y a même la directrice, Andréane Desilets, de la maison Benoît Labre, qui est venue à l'extérieur me parler tantôt. Elle dit « Je ne suis pas disponible pour une entrevue, mais je peux te dire que je suis consciente des préoccupations des parents. On a formé un comité, justement, avec la police, les policiers, pour atténuer, si tu veux, cette grogne, trouver des solutions plus faciles à cette cohabitation. Et elle pense que lorsque l'entrée principale sera ouverte dans quelques jours ou quelques semaines, pour les travaux complétés, ça va probablement centraliser la clientèle vers l'avenue Atwater. Donc, loin des regards de ces enfants de l'école primaire et de la clientèle. Mais je ne mettrai pas un 10 $ là-dessus, Jasmine. J'ai comme l'impression quand même que la clientèle va continuer de graviter vulnérable autour de cet établissement-là. Parce que tu as quand même quelques commerces voisins. Ils peuvent aller se nourrir, par exemple, au marché à toi. Eux peuvent mendier également dans le secteur. Il y a beaucoup d'achalandage. Mais déjà, de voir une tente comme ça à quelques mètres seulement d'une école primaire, c'est assez frappant là, comme image. Évidemment que je vous en parle au TVA 18h. Vous allez entendre les réactions des citoyens à ce sujet.
C'est absolument surréaliste. Yves Poirier, journaliste pour TVA Nouvelles. Toujours un plaisir de te parler, Yves.
À bientôt, Yasmine. Bonne journée.
Bye-bye. C'est absolument surréaliste là, que des écoles soient à proximité de centres d'inhalation à moins de 100 mètres. Là. Moi, j'arrive pas à comprendre ce genre de décision qui, honnêtement, là, ça m'ahurit, ça me fâche qu'on mette les enfants dans des situations comme ça. C'est sur ça que je vous laisse aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en onde, aux invités et chroniqueurs. Et je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube. Cube.